Du coup, tu travailles à la Cinémathèque et c'est aussi la raison pour laquelle tu es là, puisque tu as été programmé un festival là qu'on aura l'occasion de visiter. C'est la 23e édition du festival Extrême Cinéma. Peut-être que vous avez vu un petit peu les pancartes par-ci par-là dans la ville. Ça se passe du 18 à partir donc de vendredi au 26 février 2022. Et c'est donc le festival du cinéma de l'extrême. Donc déjà, première question, voilà, comme je te disais hors antenne, moi j'ai compris qu'il y avait du sang et des gens tout nus. Qu'est-ce que ça veut dire, cinéma de l'extrême? C'est quoi ce concept?
Alors il fallait trouver, quand on a créé le festival il y a 23 ans, il fallait trouver quelque chose d'accrocheur, voilà, il fallait qu'on accroche, donc ça nous semble bien, et ça me semble toujours bien que ça s'intitule Extrême Cinéma. Après, ça fait 23 ans qu'on me pose la question, qu'est-ce que c'est qu'extrême cinéma? Alors moi j'ai toujours une analogie, moi j'aime bien, mais
je suis pas très original.
Non, mais c'est tout à fait normal, parce que moi je me la pose aussi, ça fait 23 ans que je me pose la question aussi, qu'est-ce que c'est qu'extrême cinéma? Alors moi j'aime bien l'idée c'est un peu le labo du savant fou. Donc on prend, voilà, on associe des films qui ne devraient pas être associés ensemble, on trace des perspectives qu'on ne devrait pas tracer normalement dans une programmation courante. Extrême cinéma, c'est une espèce de monstre de Frankenstein, comme ça. En fait, quand on assemble tous ces films, et plus particulièrement cette année, parce que c'est un des plus denses qu'on ait fait, en 23 ans, on ne sait jamais trop ce que ça va donner. Alors, on a l'habitude de réduire Extrême cinéma à un festival de cinéma de genre. Ce qu'il est.
Qu'est-ce que ça veut dire, un cinéma de genre?
Cinéma de genre, c'est-à-dire c'est affilié à des genres en particulier, que ce soit le cinéma érotique, que ce soit le film d'horreur, le film de science-fiction, le polar noir, pourquoi pas, les films pornographiques, puisque on en a eu passé. Bref, on ne se refuse rien dans le genre, mais pas que. Extrême cinéma, il y a c'est plutôt une sélection de films outsider, je vais arriver à le dire. On va dire un cinéma des films déclassés, des films qui sont passés sous le radar à une époque auquel on n'a pas fait attention, et qui sont redécouverts aujourd'hui, parce que c'est notre boulot de faire redécouvrir ces films-là. J'aime bien aussi, parce que c'est un festival initié par la Cinémathèque de Toulouse, hein. C'est pas une association qui vient s'installer. C'est l'équipe de programmation de la Cinémathèque de Toulouse qui s'en occupe, et on fonctionne à l'inverse, voire même à l'opposé des festivals classiques. C'est-à-dire qu'un festival classique va proposer énormément d'avant-premières, bien évidemment. Nous, c'est plutôt
le dénichage.
Ouais, nous, c'est l'inverse. On a gardé ce truc cinémathèque qui nous semble tout à fait normal, c'est-à-dire d'aller chercher dans le passé qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant, qu'est-ce qui a pu gratter, qu'est-ce qui a pu bouger les zones de confort, et qui les bouge toujours à l'heure actuelle. Et on a une toute petite partie qui sont consacrées à des avant-premières.
Et là, pour cette édition-là, est-ce qu'il y a justement un angle particulier que vous avez exploré là cette année?
Non, en fait, pas du tout. On avait, quand on a commencé Extrême Cinéma, on fonctionnait par thématique. Donc, on avait fait une thématique sur l'hôpital, on avait fait une thématique sur les frics, on avait fait une thématique sur les animaux. C'était très marrant d'ailleurs à programmer, mais on s'est vite aperçu en fait que le public ne suit pas nécessairement en fait tout ce qu'on développe sur une programmation pour ce type, on va dire, de cinéma. Donc là, on est revenu, moi, à une formule qui me plaît beaucoup plus, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est beaucoup plus anarchique quelque part, beaucoup plus foutraque. Extrême cinéma, c'est un chaudron de sorcières. On va y trouver.
C'est vos coups de cœur, c'est les coups de cœur des programmateurs.
Ouais, c'est ça. C'est du coup de cœur, et encore que c'est le but du jeu, si vous voulez. Moi, je vais encore en salle de cinéma aujourd'hui, parce que c'est aussi mon métier d'aller au cinéma et de voir des films, et de plus en plus je m'ennuie. C'est-à-dire que la plupart du temps, on me pousse dans ma zone de confort. Voilà. Alors, je vais faire une généralité terrible. Je me suis fait gronder ce matin d'avoir dit ça. Mais en gros, les films aujourd'hui, on me dit « Ah, ben, le chômage, c'est pas bien. Ah, ben oui, ben, je suis ravi de le découvrir. » On me dit « Ah, la guerre, c'est pas bien. Ah, ben oui, je suis ravi de le découvrir. Le racisme, c'est pas bien. Ah, ben oui, ben, je suis ravi de le découvrir. » En fait, les je pense que les films d'aujourd'hui poussent les gens dans une zone de confort. Pas tous, bien
Est-ce
sûr.
Est-ce que tu peux parler, genre, donner un exemple concret d'un film de grand public
Oui, il y a un film qui a fait grand bruit, alors qui n'est pas sorti en salle, qui est sorti sur une plateforme, qui est un film d'Adam McKay qui s'appelle Don't Look Up. Avec Leonardo DiCaprio, c'est le film où il y a l'astéroïde qui va s'écraser sur Terre, qui va voilà. Et moi, j'aime beaucoup d'ailleurs ce cinéaste Adam McKay. Il avait fait d'excellentes comédies très 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 noires à ses débuts. Et là, en fait, j'y vois en fait toute une série, toute une galerie de personnages, alors qu'ils sont super intéressants, puisque le film est une critique des médias américains, est une critique de la politique américaine, et je pense qu'Adam McKay a tout à fait raison, sauf que c'est des personnages qui sont complètement figés et pour lesquels on n'a strictement aucune empathie. C'est-à-dire que, évidemment, oui, on sait que les présentateurs de chaînes news, etc., ne sont pas des gens convenables, mais moi ce qui m'intéresse, c'est les personnages qui évoluent et c'est les personnages qui peuvent m'amener vers quelque chose que je peux comprendre, qui ne fait pas partie de mon monde, par exemple.
Et justement, là, puisque tu parles de ça, est-ce que dans la programmation là, de la semaine prochaine, il y a justement des films qui viennent vraiment illustrer là, ce que tu dis ?
Ouais, moi je pense qu'on invite un gars, moi, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Buddy Giovanizzo, qui est un cinéaste américain qui vit et travaille à Berlin aujourd'hui. Alors qui a commencé au milieu des années 80. On passe trois films en fait de lui. C'est quelqu'un qui a jamais trop forcé sa carrière. Ça aussi c'est intéressant. Et les trois films qu'on passe, c'est Combat Shock, No Way Home et Life Is Hot in Cracktown. Et ces trois films, en gros, réalisés à 10 ans d'écart,
Du coup, c'est de premier 86, 96.
Voilà.
2004.
Et le premier est un tout petit film qu'on a d'ailleurs affilié au genre horreur, ce qui n'est pas réellement, vu que c'est la descente aux enfers.
Tu parles de Combat Shock.
Ouais, de Combat Shock, qui est la descente aux enfers d'un vétéran du Vietnam. Surtout la manière dont le film est fait, puisque c'est un croisement complètement improbable entre Taxi Driver de Martin Scorsese et Eraserhead de David Lynch. Donc c'est excessivement bizarre. Avec No Way Home, on passe là dans le film noir.
Alors juste, Combat Shock, ça passe mercredi 23 février à 19h,
tout
suivi
à
21h de No Way Home. Là,
voilà, tout à fait. Donc
ouais.
Là, on enchaîne les deux. Mmh. Alors No Way Home, on est plus dans bien évidemment dans le film noir. Et le lendemain, après une masterclass qu'on fera avec Buddy, donc on pourra voir Life Is Hot in Cracktown. J'ai dit 10 ans d'écart et c'est quelque part un résumé de l'histoire américaine, puisqu'en fait, ces trois films, c'est l'Amérique comme on l'a jamais vue. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui filme dans des quartiers complètement sordides, enfin on dirait des zones de guerre dans lesquelles se débattent des petits malfrats, des gens qui vivent de petits larcins pour survivre. Life Is Hot in Cracktown est un film choral, c'est-à-dire avec plusieurs personnages qu'on va suivre comme ça, on en perd un, on se raccroche à l'autre, on va retrouver le premier.
Et en quoi justement elle nous ramène pas dans notre zone de confort, parce que justement parfois dans le cinéma il peut y avoir une esthétisation de la misère là sur par exemple voilà ou alors sur
Là on l'a pas du tout. Ouais. C'est ça qui est intéressant, et c'est surtout au niveau des personnages, parce que finalement les personnages des films de Giovanizzo ne sont pas nécessairement sympathiques. C'est plus des survivants que des héros entre guillemets quoi. Et il n'y a pas une seule once de misérabilisme dans ce cinéma-là. Par contre, après, c'est un cinéma qui est très incorrect, puisque c'est une de ses spécialités, ces espèces de trouées de violence en fait à l'intérieur de ses films, qui, je vous garantis, vous calme. On se dit ah oui, quand même. Ah oui, ok, d'accord. Bon, ben on est calmé. Et c'est voilà, moi j'y vois pas une once de misérabilisme. C'est un cinéaste qui ne coche pas les cases, comme je dis, comme on fait aujourd'hui malheureusement trop souvent. Et c'est un cinéaste, comme je l'ai dit aussi, qui n'a pas forcé sa carrière. C'est pas quelqu'un. Je sais que Life is Otis Crackdown a été excessivement critiqué aux États-Unis, mais ça peut se comprendre parce que ça donne une image du pays qui est absolument, c'est une image absolument désastreuse. D'ailleurs, qu'on a l'impression d'être au tiers-monde. Et donc, je comprends que il y a eu des, oui, beaucoup de critiques qui ont dû être un peu choquées, un peu pris à la gorge, en fait, par cette claque comme ça cinématographique.
C'était le groupe Wow avec Come la Noche. Merci au copain qui m'a fait découvrir ce groupe. De retour dans le magazine, il est midi, il est 13h23. On est toujours en train de parler de la programmation de ce cinéma de l'extrême, là, la Cinémathèque, à partir de vendredi jusqu'au 26 février 2022. Là, tu nous disais qu'en fait, dans la programmation, il n'y avait pas vraiment de thème, mais au contraire, un voyage, un petit peu des détours par différents thèmes. D'après ce que j'ai compris, on va pas mal retrouver le décor post-apocalyptique américain, mais vous êtes aussi allé faire un tour du côté du cinéma japonais.
Oui, toujours, toujours,
Voilà,
toujours.
du coup, ce que tu peux nous raconter un petit peu.
Oui, on a eu la chance, grâce à la Maison du Japon, en fait, de pouvoir programmer tout un cycle. Alors, un petit cycle, en fait, c'est 11 films, en fait, réunis, oui, en 7 projections. Puisqu'il y a des courts-métrages, des moyens-métrages et des longs-métrages dans cette petite sélection de films qui est intitulée Hachimiri Madness, les cinéastes indépendants japonais des années punk. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ben, tout simplement, au Japon, il a existé un mouvement, et encore que le mot mouvement ne soit pas véritablement bien trouvé. À la fin des années 70, il y a eu toute une vague de jeunes cinéastes. Et alors, quand je dis jeunes cinéastes, c'était des très très jeunes cinéastes. Certains avaient 17 ans, 18 ans, qui trouvaient le cinéma japonais de leur pays absolument imbuvable. C'est-à-dire qu'ils rentraient dans une salle
Qu'est-ce
de.
qu'il leur reprochait?
Je pense le classicisme, voilà, un petit peu trop classique, le côté un petit peu ronronnant, enfin voilà, ça ne les intéressait plus du tout. Et ces cinéastes ont pris les armes, c'est-à-dire quand un cinéaste prend les armes, c'est-à-dire qu'il prend sa caméra, et ils ont commencé à filmer. Sans aucune règle, aucune. C'est pas un mouvement justement qui est réuni par une esthétique. Ou par des thèmes, c'est-à-dire que c'est un mouvement très bizarrement qui va être réuni par le format, c'est-à-dire que quand ils ont filmé, tous ces films ont été filmés en Super 8. C'était du pur cinéma underground, et alors c'est très bizarre parce qu'on peut comprendre à la fin des années 70 qu'on puisse filmer donc en Super 8, mais ça s'est perpétué jusqu'au début des années 90.
Il filmait quoi du coup, ces cinéastes?
Et alors là, c'est là où ça devient complètement dingo, c'est-à-dire que là, on est entre le cinéma de genre, le cinéma expérimental et le happening ou la performance. C'est-à-dire qu'ils ont fait de tout. Il y a des films en fait où on voit des gens qui galopent à poil dans les rues de Tokyo et qui hurlent. Donc ça tient, il y avait ce côté.
On
Je...
confirme qu'il y a beaucoup de gens à poil dans ce festival.
Oui, il y a toujours beaucoup de gens tout nus, oui, à Extreme Cinéma. Et donc ils se sont lancés dans cette cavalcade punk, si on peut dire, puisque c'était des films do it yourself, c'était des gens qui ne maîtrisaient absolument pas du tout le médium cinéma. Certains sont devenus des réalisateurs connus, d'autres sont restés dans l'oubli, mais là on peut voir les premiers pas en fait d'un réalisateur comme Shinya Tsukamoto, qui plus tard lui va réaliser Tetsuo, et là son film est vachement bien, là, The Adventure of Electric Road Boy, parce que
Qui
c'est
sera diffusé quand, attends, quelle page?
ce sera le 21 février à 19h.
Ok.
Alors pourquoi? Parce que c'est vraiment le brouillon de Tetsuo. Je crois que Shinya Tsukamoto devait avoir 18 ans à l'époque, ou peut-être 19 quand il a fait le film. Donc, alors qu'il y a une histoire évidemment très 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 étrange, puisque c'est un étudiant qui a un poteau greffé dans le dos. Alors, ne me demandez pas pourquoi il a un poteau greffé dans le dos, mais qui va essayer
C'est quoi le nom du film?
C'est The Adventure of Electric Road Boy.
Ah ouais, ça y est,
Et
ouais,
alors voilà, alors,
87.
oui, voilà, alors si, ça parle de voyage dans le temps, de vampires de métal. Enfin, c'est complètement dingo. Ça ne rentre dans strictement, on va dire, aucune case. Il y en a un autre que j'aime.
Mais du coup, c'est complètement fou comme histoire, mais c'est bien réalisé.
Il y en a, non, absolument pas. Mais encore une fois, c'est l'intérêt de ne. Moi, je reviens à l'intérêt justement d'extrême cinéma. Je pense que même un film qui est réalisé, enfin, d'une manière totalement inepte, et comme je dis, qui va ébranler les piliers comme ça du cinéma, peut être vachement bien si on s'y amuse. Il faut...
C'est quand même un peu un festival d'initiés, quand même.
Non, sur certains trucs, oui, sur d'autres, non.
Ok,
c'est-à-dire. C'est ça qui est assez drôle. C'est
comment
que,
on fait quand on n'est pas cinéphile
bah, justement, c'est le truc. Alors, je rappelle qu'à la Cinémathèque, notre tarif plein, c'est 7,50. Donc, ce n'est pas les 12 ou 15 euros qu'on peut payer habituellement. Et que, bah, il faut s'y coltiner. Moi, je trouve que c'est le principe du truc.
Ouais, okay.
On va se coltiner à ça. Nous, à Extrême Cinéma, on n'a jamais sacralisé la technique. Parce que je trouve que c'est quelque chose de pas très intéressant, en fait, de dire « Ah, oh mon Dieu, ce film constitué de 5 plans séquences est complètement extraordinaire. » Non, moi, je m'en fous, en fait. Moi, ce que je veux, c'est éprouver quelque
Alors
chose.
Alors, justement, je me demandais, parce que je n'ai pas l'habitude de faire ce genre d'interview, je me disais, là, pour les gens qui se demandent s'ils ont envie d'aller voir des films, c'est quoi les émotions qu'on peut ressentir? J'imagine qu'il y a un grand panel, mais quelles sont les émotions qui sont mises à l'honneur dans cette programmation?
Comme tout bon film, c'est l'excitation, c'est l'empathie, c'est la compassion, ça peut être la peur, ça peut être le dégoût. On passe un film absolument dégoûtant en clôture que moi personnellement j'adore. Qui
s'appelle... Toi, t'aimes bien aller au cinéma et ressortir dégoûté?
Oui, si je me suis amusé, pourquoi pas. On passe une abomination qui s'appelle Ebola Syndrome, qui est un film hongkongais de catégorie 3. Alors, qu'est-ce que c'est que la catégorie 3? Ouais. C'est simplement l'interdiction moins de 18 ans dans la censure hongkongaise. Donc, il s'est fait énormément de films de catégorie 3 parce que les cinéastes évacuaient beaucoup de choses qu'ils ne pouvaient pas évacuer dans le cinéma dit traditionnel. Donc là, en fait, c'est l'histoire c'est l'histoire d'un virus Ebola, en fait, qui va trouver un hôte, donc qui est un humain, qui est joué par Anthony Wong, et on va s'apercevoir que l'hôte est bien plus vicieux que le virus qu'il a infecté.
Okay.
Voilà. Je parlerai pas trop du film parce que là, c'était un catalogue de déviance. J'en ai jamais vu autant dans un seul film.
Ça fait un peu des nœuds au cerveau quand on sort de ce film-là.
Ouais. Mais en fait, du coup, il faut pas se leurrer. Là, je reparle d'Ebola Syndrome. Je veux dire, l'acteur principal et le réalisateur, en fait, ne sont pas dupes. C'est-à-dire c'est un film qui passe la cinquième, comme je dis, mais qui finalement, de par son aspect grotesque mais complètement assumé, en fait, va donner une vision du monde, certes très noire et très sombre, mais aussi quelque part un peu ridicule. Il y a vraiment un côté anard dans le film là qui me plaît bien, quoi. Et encore une fois, c'est je pense que les personnes qui ont fait ce film savaient très bien ce qu'ils faisaient. C'est tout à fait calculé. C'est une forme d'humour très très particulier.
Ouais, justement, c'est quoi la place de l'humour là dans ce festival?
Bah, il y en a, on en a, enfin, oui, il y a énormément d'humour là. Après, je qu'est-ce que je pourrais citer? Je pourrais citer un autre film japonais, justement, qui est une avant-première qui aura lieu. On va retrouver, je vais feuilleter mon programme. C'est un film qui s'appelle Junkhead, donc réalisé par un japonais, encore une fois, un autodidacte. Et là, le film a une
histoire. C'était de même génération, quoi.
Ouais, le film a une histoire complètement dingue.
Ah, c'est un film de 2021, Junkhead.
Alors, c'est un film de 2021, mais en fait de 2013, mais aussi de 2017, puisque c'est le gars, en fait, était un décorateur d'intérieur. Donc là aussi, qui maîtrisait pas du tout le cinéma et qui s'est dit, je vais faire un court métrage d'animation en volume, donc de l'image par image, tout seul chez moi. Ça, c'était en 2013.
Okay.
Donc, il a fait son premier court. Je crois qu'il durait une quinzaine de minutes. Il a balancé ça en festival. Ça a super bien gazé. Et le gars s'est dit, tiens, je vais allonger mon film.
Mm-mm.
Et là, il est reparti à nouveau pour 3 ou 4 ans chez lui, encore une fois, tout seul, pour faire de son court-métrage un long-métrage. Donc, il en a sorti un film d'1h20 qu'il a rebalancé en festival. Ça a remarché, tout le monde a dit « Ah, mais c'est absolument formidable et tout. » L'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais le gars s'est dit « Tiens, je vais l'allonger encore plus. Je vais à nouveau m'enfermer 3 ou 4 ans de plus. » Donc, pour arriver en 2021, pour avoir ces 100 minutes de ce film, alors qui est Alors, dont je ne vais pas raconter l'histoire, parce que là, on partirait dans des trucs un peu complexes. Mais ça se passe dans des caves, enfin, avec des monstres. Alors, c'est très marqué, c'est très influencé par les films de James Cameron, par les films de John Carpenter, par toute cette frange un petit peu du cinéma américain. Mais ces créatures sont absolument délirantes. Et encore une fois, c'est cette histoire, parce que je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que d'animer des petites poupées image par image. On leur fait faire un
Non.
petit. Voilà, on a des poupées, en fait, qui sont bien sûr articulées. Et on bouge à peine la main, hop, un peu la tête, clac, on prend une image. Et
Ouais.
on revient à nouveau, on bouge, clac, voilà, pour obtenir un mouvement fluide. Donc c'est un travail de titan
Ouais.
complètement obsessionnel. Et encore une fois, le film est super drôle, on s'y amuse beaucoup, quoi.
Ok. Et là, j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de monstres dans ces films-là. Et moi, enfin, je sais pas, les monstres, ça m'intéresse. J'aime bien ce que ça représente dans la société, un peu comme miroir, un peu comme. Enfin, et je me demande en fait, toi qui, j'imagine, geek un peu sur ces films-là depuis pas mal de temps, est-ce que y a eu une évolution de la représentation des monstres selon toi dans le cinéma?
Oui, bah
Mais et laquelle?
oui. Alors là, il
Vous
faudrait
avez 2 heures.
repartir,
Non, vous avez 40 minutes.
il faudrait repartir dès le départ. Qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus? Il pourrait y avoir ouais, allez, il pourrait y avoir on va dire deux types de monstres. C'est-à-dire là, encore une fois. À la clôture, puisqu'on fait une sorte de nuit pour clôturer le festival, on passe un film qui s'appelle Le Blob. Où on a une espèce de monstre, bah c'est un blob, c'est-à-dire que c'est un monstre extraterrestre, donc qui ne pense pas, si ce n'est qu'il dissout les gens.
Le blob est terrestre, hein?
Ouais, mais là il est extraterrestre. Là
D'accord,
en fait,
ok,
il
pardon,
vient,
ouais, non.
voilà, là il vient de l'espace, donc c'est juste cet organisme en fait qui arrive sur Terre en fait et qui voilà qui va dissoudre des gens. Ça c'est voilà, c'est je dirais, c'est le premier type de monstre, voilà, qu'on peut trouver. Et ensuite, on a les monstres. Alors, je prendrai les grands monstres de l'histoire du cinéma, que ce soit Dracula, le loup-garou, la momie, qui font partie des monstres. Où là, on est dans quelque chose de plus, comment dire, de plus. Effectivement, il y a un effet miroir. C'est-à-dire que automatiquement, par exemple, le personnage du vampire, Dracula en particulier, si vous voulez, est quasiment tout le temps associé au sexe, par exemple. C'est quelque chose qui a toujours été là. Le personnage, par exemple, du loup-garou, lui, est associé évidemment au côté bestial, aux pulsions bestiales. Si vous prenez le personnage, par exemple, du zombie, alors là, il y a plusieurs cas de figure, mais ce qui en ressort, c'est que c'est associé au pourrissement, c'est associé à la fin du corps. Donc tout ça, en fait, c'est des choses qui sont pas très conscientes, mais comment dire, oui, c'est ça, c'est des choses, ça fait partie de l'inconscient. Mais quand on voit un film de zombie, je pense que c'est qu'est-ce qui se passe après la mort? Qu'est-ce que le corps devient, par exemple? Et le film de zombie est super intéressant à ce niveau-là. Mais le corps, il pourrit, il devient dégueulasse, c'est des questions de fluide corporel, etc. Voilà, donc ça, c'est super intéressant. Ouais.
Et là, justement, dans une société ultra numérique comme la nôtre, est-ce qu'il y a des nouveaux monstres? Est-ce qu'il y a des cyborgs là dans la programmation? Est-ce que ça fait partie un petit peu des
Non,
imaginaires?
non, 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 non. Enfin, il y aurait pu y en avoir, mais là, on n'en a pas. Oui, effectivement, oui, ça pourrait en faire partie,
Mais
quoi.
là, pas trop.
Non, non, non. Là,
Et
pas trop, ouais.
du coup, je rebondis parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs films qui revisitent un peu l'histoire du Dr. Jekyll et Mr. Hyde. C'est une histoire que j'aime beaucoup personnellement, qui justement aussi est vraiment travaille exactement ce point-là du rapport entre la normalité et la monstruosité, quoi, et le bien, le mal, etc. Bon, quand même dans des schémas un petit peu manichéens, hein, quand même du 19e et tout. Mais est-ce que tu veux présenter les films? On a Dr. Jekyll et Mr. Hyde. un film de 1920 par John Robertson et qui sera diffusé au début du festival, vendredi 18. Et on a aussi... c'est quoi, c'est...
Dr. Jekyll et les femmes.
Ouais, ça donne pas très... Ouais, ça ne tente pas plus que ça,
et
mais est-ce que tu peux
formidable.
Les présenter ouais.
C'est, oui, alors le film qui fait l'ouverture d'Extrême Cinéma, en fait, qui est donc un film muet, mais qui sera projeté donc en ciné-concert, qui sera accompagné par un musicien
En live et tout.
Qui va jouer en live, un musicien électro donc qui se fait appeler Undude, je sais pas exactement comment on dit, faudra que je lui demande quand même parce que c'est moi qui vais présenter la séance d'ouverture. Qu'est-ce que je pourrais dire sur ce Dr. Jekyll et Mr. Hyde, c'est-à-dire que très tôt en fait le cinéma s'est tourné vers la littérature fantastique considérée comme classique aujourd'hui, qu'il n'était pas tant que ça à l'époque, et qui alors effectivement Dr. Jekyll et Mr. Hyde hein, c'est tout simple c'est l'histoire du bien et du mal.
Faut pas spoiler parce qu'il y a encore des gens qui connaissent pas l'histoire, je crois.
Oui, c'est vrai ouais. on va pas dire. Mais en tout cas il y a un truc qui est génial dans ce film là donc je vous rappelle que c'est un film de 1920 qu'il n'y avait pas d'effets spéciaux numériques à l'époque, on ne retouchait pas les images, et il y a cet acteur qui s'appelle John Barrymore, qui incarne donc le terrible Mr. Hyde. Alors, certes, il y a un petit peu d'artifice de maquillage, mais je vous garantis que John Barrymore est authentiquement flippant dans ce film-là. On sent qu'il prend un plaisir énorme à jouer ce personnage un petit peu dégueu, comme ça, qui représente d'ailleurs nos pires pulsions. Mr. Hyde, c'est exactement ça. C'est le représentant des pulsions qu'on peut avoir, mais nous sommes des êtres civilisés et donc ces pulsions restent à l'intérieur. Le cinéma est d'ailleurs cathartique. Hein. On s'en sort aussi comme ça. Hein.
Ça me fait penser que là, c'est que tu opposes pulsion et civilisation. Ça me fait quand même penser qu'avec le documentaire qui vient de sortir, j'ai oublié le nom du réalisateur, sur exterminer toutes ces brutes. Bon, juste, peut-être qu'on ne se situe pas sur le même niveau, mais aujourd'hui, on ne peut pas opposer civilisation et barbarie un peu de la même manière. Et on se rend compte que, justement, ce qu'on appelle civilisation, c'est construit justement sur la barbarie et l'horreur et la destruction.
Complètement. Et le deuxième film dont tu parlais, Docteur Jekyll et les femmes, alors qui est un titre un peu bizarre, hein, je dois le reconnaître, qui ne rend pas justice au film d'ailleurs, alors qui est un film français, le réalisateur est polonais, c'est Valerian Borowczyk, et Borowczyk est un cinéaste qui a toujours été un petit coquin, mais un petit coquin littéraire. C'était quelqu'un d'excessivement cultivé et qui a pour le coup ce que j'appellerais un cinéma littéraire, qui marche très peu en fait sur des effets chocs ou des effets de cinéma de genre. Et là, le film est vachement intéressant. Alors, encore une fois, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Jekyll and Hyde, on ne va pas la dévoiler. Mais disons que là, il y a des... comment dire, là pour le coup il a repris à son compte donc cette histoire dont il s'éloigne d'ailleurs énormément et parce qu'il en fait une sorte de il en fait une sorte d'attaque contre la bourgeoisie. C'est assez marrant parce que c'est un repas bourgeois en fait qui va dégénérer comme ça petit à petit. C'est un huis clos, ça se passe dans une maison, il y a uniquement quelques pièces comme ça comme décor, et ce repas bourgeois où il y a toute cette bonne bourgeoisie mais toujours un petit peu coincée, toujours un petit peu frustrée, pétrie de bonnes manières, et il va y avoir ce repas qui va partir un peu en cacahuète, bien sûr, parce que Mr. Hyde va y mettre son grain de sel.
Merci, on fait une petite pause musicale, on se retrouve juste après. Yeah. de retour dans le magazine de Canal sur 92. Point 2, toujours en compagnie, je ne connais pas ton nom, pardon.
C'est Fred Thibault.
Fred Thibault de la Cinémathèque de Toulouse pour présenter la programmation du festival Extrême Cinéma qui commence ce vendredi 18 février. Tous les films sont joués à la Cinémathèque.
Oui, on n'a rien à l'extérieur, on ne joue jamais à l'extérieur,
okay.
On joue toujours à la maison.
Ok, d'accord. En huis clos, comme ça, ça fait un bon décor de film d'horreur. Alors justement, là, avant de se quitter, tu me disais que... est-ce que tu peux présenter, puisqu'il y a des invités
cette semaine.
Ouais, est-ce que tu peux les présenter?
Oui, alors très vite fait, on recevra Cédric Cyr, qui lui est écrivain. Voilà, alors qui œuvre dans le thriller horrifique. Voilà, c'est vraiment bien d'ailleurs ce qu'il écrit. C'est un super page turner, c'est très difficile d'arrêter.
Page-turner, pardon, j'ai pas la ref.
Le fait de tourner la page, on peut pas s'empêcher de... C'est-à-dire, on arrive à la fin du chapitre, il faut absolument qu'on commence à lire le suivant, parce qu'on veut savoir ce qui se passe. Donc là, on est sur le principe de la carte blanche. Donc on lui a laissé deux films à présenter. Le premier, ce sera Hellraiser, film d'horreur SM. Ça existe, hein. Mais oui. Et alors après, on aura quelque chose de plus connu, mais de vachement bien aussi, qui est Lost Highway de David Lynch, alors qui est absolument irracontable. C'est une sorte de descente comme ça dans la psyché d'un schizophrène. Bon, c'est du David Lynch. Hein.
Un bad trip sensoriel et terrifiant jusqu'au péage de la démence. Vous avez.
On a le sens de la formule. Oui, ouais, tout à fait. Ouais. C'est moi qui écris les textes en plus. Donc voilà. Donc Cédric Cyr, on aura un second écrivain, Laurent LB, qui viendra pour deux bouquins auto-édités. Le premier sur Walter Hill, donc, qui est un cinéaste américain. Et après, sur les films paranoïaques américains aussi des années 70, et lui toujours pareil, le principe de la carte blanche, qui viendra présenter un film de gang qui s'appelle Les Guerriers de la Nuit, donc un film de Walter Hill de 79, et après un très bon thriller qui s'appelle Black Sunday de John Frankenheimer, qui est un film de 1976, qui est assez marrant, qui s'était fait incendier à l'époque à cause de son sujet, qui était trouvé absolument ridicule, parce que c'est un film qui est très précis, presque, j'allais dire quasi documentaire, n'exagérons pas, mais c'est vraiment un film précis au niveau documentaire, c'est-à-dire on y voit en fait un groupe terroriste fomenter un attentat donc qui a lieu pendant le Super Bowl donc aux États-Unis, et on a dit de ce film que c'était absolument ridicule que ce genre de pratique terroriste ne pourrait jamais arriver aux États-Unis. Voilà, donc l'histoire nous a prouvé le contraire. Donc ça, c'est vachement intéressant de redécouvrir ce truc-là. Qui est-ce que nous recevrons aussi? Nous recevrons la DJ Lady Miss Penelope avec un documentaire qui s'appelle Here to be Heard, The Story of the Slits, qui est un film de William Badgley qui date de 2007. C'est elle d'ailleurs, et je la remercie, qui nous a amené le film. Moi, je le connaissais pas. Je connaissais le groupe, les Slits, qui est le seul groupe punk féminin qui s'est formé en 77, qui sont contemporaines des Sex Pistols, des Buzzcocks, des Clash, et c'était les seules filles dans ce milieu d'hommes en fait qui évoluaient. Donc là, c'est le film est vachement bien parce que ça retrace toute leur carrière.
Ouais.
Et en plus, c'était des gamines, elles avaient 17 ans, 18 ans, etc. Elles voulaient faire de la musique, elles savaient pas jouer, elles y sont allées billes en tête, et elles ont eu raison. Moi, j'adore leur nom, The Slits, parce que c'était extrêmement provocateur, ça veut dire les fentes. Donc ça pose le cadre. Elles avaient peur de rien, et dans ce doc, effectivement, on s'aperçoit qu'elles ont peur de rien. Donc elles arrivent même à en remontrer au Clash et au Sex Pistols. Voilà, image, preuve à la pluie. Image
présentée du coup par Lady Miss Penelope, ouais, le vendredi 25 février à 21h.
C'est ça, c'est ça. Et je terminerai par la sélection de courts-métrages.
Parce qu'on a, voilà, on a le temps, on a 10 minutes encore.
Oh, mais ça va alors. On a une sélection de courts-métrages, même une compétition. Attention, c'est du sérieux, de courts-métrages, puisqu'il y aura un gagnant. Tadadam.
Gagner quoi ?
Bon, en fait, c'est un prix symbolique. mais en fait, qui peut servir, hein, même si c'est symbolique. Et comme ça, ça me permet de dire qu'il y a un truc quand on programme des films, quand on est programmateur. Il y a un truc qui est excessivement difficile, c'est de programmer les courts-métrages. Pourquoi ? Parce que le premier truc, des courts-métrages, il y en a des centaines et des centaines. Et c'est quelque chose d'extrêmement chronophage, en fait, de voir tous ces films, d'en sélectionner.
Ça prend plus de temps que les longs-métrages.
Ça prend beaucoup plus de temps que les longs-métrages. Et puis, évidemment, les films, il faut les voir, parce que les cinéastes, on ne les connaît pas. C'est souvent des premiers ou des seconds films. Ça peut être des troisièmes, mais rarement des quatrièmes. Donc, on a décidé, comme on est feignant, parce qu'on est toulousain, on a décidé d'externaliser en fait cette sélection. Et c'est deux garçons en fait de Lyon qu'on aime beaucoup, qu'on connaît depuis des années. Donc Sébastien Lecoq et Benjamin Leroy qui ont créé leur festival de court-métrage qui s'appelle Mutoscope, donc qui a lieu à Lyon. Et c'est à eux qu'on a confié en fait cette sélection de courts-métrages. Donc okay. En fait, nous, pendant qu'on est au bar, eux ils bossent. Voilà, ce qui est plutôt plaisant. Mais je plaisante bien sûr. Et en fait, c'est d'excellents programmateurs parce qu'ils arrivent. Et ça, c'est très difficile aussi à trouver. Comment je pourrais dire, à trouver un rythme pendant une séance de court-métrage. C'est-à-dire qu'on risque de perdre les gens pendant une séance de court-métrage.
C'est quoi généralement ces quatre courts-métrages?
Voilà, là il y en a. Je crois qu'il y en a 7. Il y en a 7 et c'est des garçons qui arrivent, comment dire, parce que finalement c'est presque quand ils conçoivent leur petit programme de court-métrage, enfin leur séance, parce que là c'est qu'une séance, leur festival bien sûr c'est plusieurs séances, ils arrivent à trouver un rythme quelque part, mais quelque part comme un long-métrage où il y a un début, il y a un pic et puis il y a une fin comme ça et tout, et ça c'est extrêmement délicat de leur part, et puis surtout c'est un vrai métier, faut savoir le faire. De quoi je pourrais parler? Je vais parler des enfants parce que...
Ouais, mais attends, il y a juste là, je viens de me rappeler, faut savoir que Michel Sardou apparaît dans ce festival et que ça a attiré mon attention. Non pas que je sois une grande fan de Michel.
Non, personne ne l'est. Hein.
Mais qu'est-ce qu'il fout là
Alors, Michel Sardou, qu'est-ce qu'il fout là? On a aussi un truc, on a une petite section dont là on n'a pas parlé, qu'on appelle double programme. C'est-à-dire qu'on rapproche, on prend deux films qu'on rapproche. Donc là, on s'est dit, c'est plus pour la plaisanterie, hein, attention, voilà, la plaisanterie très très appuyée. Donc là, on a rassemblé, on a intitulé ça « Idole des jeunes », « Idole pluriel ». On a rapproché deux films complètement invraisemblables. Le premier s'appelle « Cross », et c'est un polar avec Michel Sardou. Mais alors, Michel Sardou, comme vous l'avez jamais vu...
Mais Michel Sardou n'est pas à la place du mort.
Non, pas du tout. C'est-à-dire que là, Michel Sardou est flic. Et alors, c'est un flic dur à cuire. Mais voilà.
Ça doit être. Alors, ça, pour moi, ça, je pense que c'est de l'ordre du film d'horreur.
Voilà. Et alors, c'est un flic comme ça, un peu dur à cuire, voilà, qui traite un peu sa hiérarchie, comme ça et tout. Oh là là, mon Dieu, quel électron libre, ce Michel Sardou. Mais je vous garantis, c'est absolument hilarant. Le voir, voir cela jouer un peu Clint Eastwood dans. Dirty Harry, puisque le modèle c'est un peu ça, on se dit mais qu'est-ce qui est arrivé, comment l'idée a pu germer.
Ouais, je pense qu'on se dit aussi pourquoi je suis allé voir ça aussi en même temps.
Et on peut se dire effectivement pourquoi je suis allé voir ça, mais je vous garantis qu'après on se dit ah mais je l'ai vu, moi j'ai vu le film avec Michel Sardou et vous l'avez pas vu. Voilà.
Ouais, c'est vrai que pour briller en société ça peut être un atout quoi.
Exactement, c'est ça. Et on l'a rapproché de Terminus, alors qui est un film avec Johnny Hallyday. Voilà. Alors alors Johnny Hallyday qui est meilleur acteur que Michel Sardou, il faut bien le dire, hein, si on voulait comparer, mais pas dans Terminus. Terminus est un peu un Mad Max à la française. Alors c'est un film qui a coûté très cher, énormément cher à l'époque, et qui au final est un accident industriel. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui fonctionne dans ce film. Je ne vais pas raconter l'intrigue. Hein. En gros, c'est une course-poursuite, hein. Voilà, comme dans Mad Max. Mais sauf que c'est beaucoup moins subtil, vous l'aurez compris. Qu'on a des idées absolument incongrues notamment ce camion qui porte un nom, le camion s'appelle Monstre et le camion est équipé d'une intelligence artificielle. Donc il parle.
Film de 87, ça doit vraiment
80,
envoyer du
80.
steak.
Ça
steak végétal, bien sûr.
Voilà, que ça envoie du steak, comme on dit. Enfin, c'est absolument improbable. Voilà, donc là, c'était un petit peu pour la blague.
Ok, merci. Il nous reste 5 minutes. Est-ce que tu veux parler, peut-être soit des enfants, parce que là j'ai l'impression que de ce que
Ouais.
tu m'as dit, ça correspond pas trop à un public jeune, hein, pour le
Ouais, tout
moment.
à fait. Et en fait, il y a quelques années, on s'est dit, on fait rien pour les enfants. C'est chaque fois qu'on les voit dans des films d'extrême cinéma, en général, ils finissent toujours très mal. Donc, on s'est dit,
Dans
on
les 10
va
premières minutes, quoi.
quasiment. Quasiment. Donc on s'est dit, il faut quand même aménager une projection pour les enfants. Et donc, effectivement, il y a une projection qui a lieu là le samedi 19 février. On appelle ça les juniors de l'extrême. Et là, ce sera un ciné-concert à nouveau. Donc là, c'est 4 courts-métrages. Du début du siècle, hein. Il y a le voyage dans la Lune de Méliès, Hôtel électrique qui date de 1908, La folie du docteur Tube qui date de 1915 et les derniers Malek chez les fantômes, film avec Buster Keaton qui date de 1921. Donc c'est très marrant, hein. On va dire que c'est du burlesque fantastique et ce sera accompagné par une musicienne qui est vachement bien, qui s'appelle Émilie Ménère, qui joue avec des machines. En fait, c'est une sorte de rythmique post-punk, un peu martial comme ça, et avec elle fait des boucles, des espèces de ritournelles comme ça, obsessionnelles, et tout est analogique, hein, attention, hein. Voilà, y a pas de numérique là-dedans. Donc voilà, ça c'est très bien. Moi, j'ai eu la primeur, en fait, elle a répété à la Cinémathèque, là, j'ai eu la primeur du ciné-concert. En fait, c'est super, c'est super. Donc là, on peut y amener son gamin, voilà, hein,
Ok,
c'est
ouais.
une projection de 7 à 77 ans, hein, comme on dit.
Allez, c'est ça, le rendez-vous est pris. Ce sera samedi 19, la samedi qui arrive. Merci à toi d'être venu présenter la
Mais
programmation.
merci à vous.
Voilà. Non, et non, c'est le mauvais micro que j'ai. Voilà. Ça commence vendredi 18, là ce vendredi, et ça dure jusqu'au 26 février. Ça s'appelle Extrême Cinéma. Et vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site de la Cinémathèque de Toulouse et sur les réseaux. Allez, salut, bon après-midi. Et on se retrouve demain avec une rediffusion du magazine de Marie-Madeleine de la semaine dernière.